Ouais. Et vous?
Co comment je conçois le processus du what, du et si, du what if dans un récit d'anticipation?
Bah du coup oui, puisque Sam est un récit d'anticipation, il me semble.
Ouais, bon, dans mes récits de science-fiction, enfin qui sont essentiellement des récits d'anticipation, effectivement, sont des récits de prospective où le et si découle du thème traité. Bon, les robots dans Sam, la fin de l'humanité, la fin d'un monde sans espoir, et surtout un monde sans histoire, sans histoire au sens culture historique. Donc ça découle vraiment du petit pitch de départ, du contexte dans le complexe du chimpanzé que j'avais réalisé également aux éditions d'Argo avec Jean-Michel Ponzio. Le thème était, dans un futur proche, un voyage vers Mars, un personnage dont le rêve était d'être la première astronaute pour Mars et qui était la première en ligne pour ce projet. Des coupures de budget faisaient que les voyages vers Mars étaient annulés, et un événement surnaturel, entre guillemets, la survenue de deux astronautes qui étaient déjà revenus sur Terre après leur premier voyage vers la Lune, donc Neil Armstrong et Buzz Aldrin, 60 ans plus tôt, posent la question du qui, pourquoi, comment, où. Un questionnement sur la réalité. Et donc, il me semble que le what if, le et si, est aussi un questionnement sur la réalité et la perception de la réalité, qu'elle soit historique, politique, scientifique. Voilà.
Et donc pour toi, Pierre?
Alors, le et si, il y a plusieurs façons de se poser la question de et si. Il y a et si. Il y a qu'est-ce qui se passerait si, donc on est dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'à partir du présent, on crée une hypothèse vers un futur plus ou moins probable, anticipation, et dans la l'Uchronie, on est qu'est-ce qui se serait passé si. Donc là, on crée une hypothèse dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on replonge dans le passé et on refait une histoire parallèle pour voir un petit peu comment les choses auraient évolué. Donc après, ça dépend, moi, du contexte dans lequel je situe mon histoire. Soit si je fais une anticipation, je pars de mon présent pour monter un futur. Encore une fois, plus ou moins probable. Et si je fais une uchronie, je vais aller dans le passé et créer un point de divergence. Donc là, je le fais pour ceux qui seront dans l'édition Flammarion, c'est-à-dire que j'ai changé un point de l'histoire qui est que, par exemple, bon, Jules Ferry a été fusillé, qu'on a renversé le gouvernement Gambetta, que la monarchie reprend le pouvoir et interdit l'école aux enfants du peuple, parce qu'évidemment, l'école conduit aux révolutions, le savoir conduit aux révolutions. Et donc, voilà. Donc, le SI dépend vraiment du contexte dans lequel on veut inscrire son histoire, soit anticipation, soit uchronie.
Et du coup, sur le côté de ce monde sans histoire par rapport à ce qui vient de dire sur l'Uchronie, finalement, dans l'anticipation, est-ce que l'histoire elle-même n'a pas un rôle fort dans le sens où c'est l'histoire contredit ou contredira l'anticipation finalement, et du coup.
À terme, à moins d'un coup de génie ou d'un coup de bol monumental de l'auteur qui écrit un récit d'anticipation, son œuvre est destinée à devenir une uchronie historiquement dans 500 ans. Le futur qu'on aura prévu ne sera pas celui peut-être qui se sera déroulé, donc l'œuvre qu'on aura écrite deviendra une uchronie alors qu'elle était une anticipation. Dans Sam, bon, j'espère que je suis effectivement dans ce cadre-là, parce que sinon c'est assez désespérant vu la teneur tragique du récit. Effectivement, peut-être de manière inconsciente, mes personnages dans ce récit étaient des personnages qui n'avaient pas de culture historique, qui n'avaient pas d'histoire au sens et politique et humain, puisque pour les spectateurs qui n'ont peut-être pas lu le bouquin, c'est l'histoire d'une bande de gamins qui survit traqués par des robots dans une ville détruite, et donc il n'y a plus d'adultes, donc il n'y a pas eu de transmission. Donc il y a déjà effectivement une rupture entre notre moment à nous, d'auteurs et de personnes vivant aujourd'hui, et le temps du récit d'anticipation dans lequel se déroule Sam. Il y a déjà une rupture de temps. Donc, après, je ne sais pas trop comment positionner ça par rapport au thème même de l'Uchronie, mais on est, Je ne sais pas si je suis tellement dans le... Bon, c'est, effectivement, le processus est un processus de what if, de et si, anticipatif. En même temps, ça me semble plus être une parabole sur le sentiment d'espoir qui est lié, de se remettre en perspective de quel futur un gamin peut espérer avoir s'il n'a pas d'histoire, en fait.
Mais finalement, ce et si qui est un motif d'écriture finalement, et il n'est pas forcément le centre de l'histoire. C'est une possibilité, c'est pas une facilité d'écriture, c'est un motif d'écriture. Mais finalement, après, l'objectif, c'est quand même effectivement de raconter une histoire. Là, vous parliez de parabole.
Disons que, enfin, je sais pas pour nos camarades auteurs ici. Mais les récits de science-fiction que j'ai faits, ils sont pas très nombreux. Bon, j'ai Genetics, édition Futuropolis avec Jean-Michel Ponzio, j'ai Le complexe du chimpanzé. Donc, effectivement, tous procèdent d'un essai. Mais hormis Sam, les trois autres étaient des essais très hard science ou très politique fiction. Dans Sam, il y a cet argument de départ du essai, l'humanité avait pratiquement disparu. Qui avait été exterminé par des robots et qui avait juste quelques gamins survivants, et finalement un prétexte pour créer un univers sans histoire et sans espoir. Donc on est plus après dans le traitement des conséquences du SI d'un point de vue historique, politique, on est simplement sur ces conséquences simplement humaines et perceptives.
Et Pour vous deux, le SI est plutôt traité comme un prétexte pour l'histoire ou plutôt la conséquence, tout le cœur de l'histoire, toutes les conséquences qui vont pouvoir en dérouler de ce SI. Ok.
I can translate if you want.
If you can, but
yeah.
Okay.
So can you repeat the question so I can?
Le essai est-il un motif d'écriture?
For you, the what if is it a pretext for writing?
Ou l'étude de toutes les conséquences de ce essai?
Or is your goal the study of all the consequences that can come out of this what if?
I really don't. I started writing, you know, a long time ago, and I wasn't a science fiction writer. You know, I started writing mainstream stories, and I went to a workshop, a science fiction workshop, because my wife kicked me out of the house, basically, and so I started applying mainstream techniques to science fiction. So I really come at this from a different perspective. I mean, every story I write, whether it be a science fiction story or not, is like, I start with a character. I mean, maybe that's where you guys start. I don't know. I mean, but I don't start with all this what ifs, you know, and weathers and stuff like that. I just, you know, let the story develop and the character and the voice of the character, and like then I, you know, see what it is, and if it's a science fiction story, then I start wondering about that stuff. But so writing for me, I guess, is just writing. You know, like, I mean, it's not anything predicated upon a way of thinking or a specific way of thinking to science fiction.
S'il n'y a pas eu de version française, je peux traduire un petit peu. Il dit que bon, lui, il avait commencé à écrire la science-fiction en ayant participé à des ateliers d'écriture de science-fiction, et que son intérêt principal était plutôt de partir à partir de personnages. Il n'avait pas particulièrement d'opinion à donner ou de point de vue spécifique sur la science-fiction par rapport auquel se positionner, qu'il préférait découler son récit de la vie de ses personnages, des voix de ses personnages, et que le What If revenait après comme un moteur du récit, mais n'était pas la cause de elle-même du récit.
Bien. Donc, quand vous dites « et si », vous convoquez le lecteur dans un voyage imaginaire, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on va vous raconter un merveilleux mensonge quelque part, puisque c'est « et si ». Donc, c'est de l'imaginaire. Moi, j'ai besoin du prétexte imaginaire pour écrire. C'est-à-dire que si j'ai un peu de mal avec la réalité simple, donc il me faut ce décalage imaginaire. Si je fais un décalage imaginaire et je veux vous faire croire à quelque chose qui n'existe pas, il va falloir donc que je prenne toutes les mesures en tant qu'auteur pour vous faire adhérer à un univers qui n'existe pas. Donc je vais prendre tous les moyens pour ça. Ça s'appelle créer un effet de réel en science-fiction. Donc, par exemple, si vous faites une uchronie, c'est faire une documentation historique très très solide pour pouvoir étayer votre uchronie. Et quand vous faites de l'anticipation, vous allez devenir une sorte d'archiviste du futur, c'est-à-dire que vous allez déterrer une histoire du futur en quelque sorte. Elle n'est pas forcément la réalité, comme disait mon camarade tout à l'heure, c'est probablement qu'on se plante, que le futur sera différent, mais au moins dans cette hypothèse-là, on va essayer de crédibiliser un maximum l'hypothèse et donc prendre tous les moyens pour ça, c'est-à-dire étayer au maximum. Parce qu'évidemment, entre le présent et le futur, il s'est passé une histoire. Et l'auteur, c'est celui qui reconstitue l'histoire. Il y a une ellipse qu'on reconstitue pour faire croire à l'histoire. Et l'intérêt de ça, à mon avis, pourquoi aller dans l'imaginaire? Pourquoi pas se contenter du réel, finalement? L'imaginaire offre beaucoup d'avantages. Entre autres, ça nous offre un miroir déformant de notre présent, ce qui nous permet de prendre conscience des problèmes qui traversent le présent, sur lesquels on est un petit peu trop collé. On a le nez dans notre présent, donc on ne voit pas très bien les mouvements qui agitent notre présent. Et donc c'est l'anticipation par la projection qu'elle permet, d'espace-temps, nous permet de voir ces mouvements qui sont souterrainement à l'œuvre, souterrains souvent, dans notre civilisation, dans notre société, et donc d'offrir par ce biais-là une voie de réflexion au lecteur. Je ne pense pas que les auteurs de science-fiction s'amuse simplement à créer des aliens et des robots qui se battent dans l'espace à coups de sabre laser, mais c'est aussi des gens qui offrent une pierre de réflexion au lecteur. Et c'est ça, à mon avis, le grand intérêt du genre science-fiction, outre le merveilleux voyage qui permet, parce que c'est un voyage extraordinaire, voyage imaginaire égale voyage extraordinaire, mais c'est à la fois une réflexion et à la fois une interrogation philosophique sur la nature de l'être humain. Donc la richesse, c'est la richesse du genre science-fiction qui permet tout cela. C'est probablement le seul genre qui permet tout cela aussi. Donc voilà l'intérêt du « et si ». C'est pas un simple jeu, c'est aussi une façon de réfléchir sur ce que nous sommes là maintenant.
Well, hello. Okay. It seems to me that's one way of looking at the genre. That's a way of looking at the genre.
C'est une façon de voir le genre.
But it seems to me these days that more the genres are kind of collapsing into each other. You know, like.
Mais aujourd'hui, les genres sont un peu en train de se percuter les uns les autres.
Mainstream writers are writing science fiction, vice versa. You know, like I mean, and they're not doing it very well in many cases, but like, you know, they're still doing it. But like,
la science-fiction mainstream mélange tout ça, et bon, pas toujours de manière très heureuse, mais...
On a la même chose en France, où il y a beaucoup d'auteurs de littérature générale qui empruntent au corps de la science-fiction pour justement établir leur récit. Ce qui veut dire que le genre s'est infiltré un petit peu partout, y compris dans la littérature générale, et que donc c'est une forme d'hommage finalement au genre, un hommage non reconnu mais réel.
That's what I mean by not doing it very well.
Like, c'est ce que je veux dire par le fait que ça ne réussit pas, c'est pas toujours très heureux.
But there are some writers who seem to be, it's like MMA, mixed martial arts, you know how. In mixed martial arts, people cross train. They cross train from the time they're little kids in boxing, wrestling, kickboxing and all that stuff.
C'est un peu comme dans les arts martiaux, la rencontre de différents arts martiaux, on mélange les techniques des différents arts martiaux.
And now I think there's a generation arriving that is doing that basically in literary form, you know.
Et maintenant que ce soit dans les arts martiaux mélangés ou en science-fiction, il y a des gens qui font ça de manière tout à fait naturelle sans se poser la question du genre.
Yeah, So, I mean, some of these new writers like Kate Krasilovich in the United States, I don't know if you know her, she wrote a vampire book called Orange. And, like, it's really, it's like Celine wrote a vampire book, you know, it's really quite good. I mean, it's just, you know, it's just changing a little bit. The genres over there are, I suppose, everywhere are kind of, you know, like blurring and coming together a little bit. And not necessarily in the standpoint of guys like Don DeLillo writes a science fiction book, but in the sense that some of this stuff is just, it's just becoming what it is. It's like a single big non-genre thing.
Par contre, j'ai pas saisi le nom des auteurs, mais bon, il citait deux auteurs, Kate Krasilovich. Chris Krasilovich, qui a écrit un récit de vampire complètement dingue, qui mélange différents genres. And the other artist, what was it?
Oh, I was saying Tom DeLillo.
Mm-hmm. Donc, il également fait des mélanges de récits.
Ce matin, c'est difficile.
C'est le matin en même temps. Hein.
Mais du coup, on est ici sur la question du genre et sur le SI. Est-ce qu'il est moteur effectivement, il permet ses réflexions philosophiques sur la nature humaine. Mais est-ce que le récit particulier, un récit particulier de SI, par exemple, le récit sur la mort de Jules Ferry, est-ce que ce récit en lui-même a des... les conséquences sont-elles un but important, ou alors c'est le processus qui est important?
Mais c'est vraiment le matin. Hein. les deux sont importants. La réflexion qui m'est venue quand j'ai créé Ceux qui sauront, donc une uchronie sur la fin de l'école, c'était de me dire, finalement, l'école que nous, on pense comme un acquis éternel, etc., elle est peut-être pas si éternelle que ça, elle est peut-être en danger. Je me suis aussi souvenu que mes grands-parents et mes parents étaient sortis de l'école à 10-11 ans pour aller bosser, tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde comme ça. Je me suis aussi rappelé que dans le monde, il y a une grande partie d'enfants qui rêveraient d'aller à l'école et qui n'ont pas cette possibilité-là. Et je me suis dit, mais si nous, on n'avait pas d'école, qu'est-ce qui se passerait? Donc, je suis remonté aux sources. Il a fallu que je crée le SI de l'école qui était... donc, je suis allé à la Troisième République avec Jules Ferry et toutes les lois Jules Ferry sur l'école laïque, libre et obligatoire et gratuite et laïque. Je suis allé à la source de ça pour supprimer la source, pour que justement on se retrouve dans un monde sans école pour les gens du peuple, hein, évidemment, parce que les élites se réservent toujours le savoir, parce que le savoir c'est le pouvoir. Et donc j'ai réfléchi d'abord à la conséquence, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si dans notre société il n'y avait pas d'école, si les gamins n'allaient pas à l'école, probablement qu'ils rêveraient d'aller à l'école, comme une partie des enfants du monde maintenant. Probablement qu'ils seraient prêts à faire un peu tout pour avoir accès à la connaissance. Et là, j'ai imaginé qu'ils allaient prendre des cours la nuit dans des greniers, aux lueurs des bougies, etc. Tout l'univers s'est mis en place parce que je voulais illustrer en miroir le fait que notre école était peut-être en danger, qu'il fallait la protéger et que le savoir, c'était important, que le savoir devait être partagé. Tout l'univers s'est mis en place comme ça et j'ai d'abord réfléchi à la conséquence avant d'aller à la source de la conséquence qui était la réaction monarchiste et la fin de la Troisième République.
Il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous me dites. Hier, j'ai été invité à un débat sur l'Uchronie et j'ai eu une réaction immédiate parce que j'ai un problème avec le genre, parce que qui est peut-être un problème avec les auteurs finalement, qui la plupart des auteurs qui traitent ce genre. On a le maître du château, tout ça, de Cadic, qui est un type très sympathique, hein, au demeurant, dont j'aime beaucoup l'œuvre et le point de vue, la plupart du temps. Mais l'Uchronie me semble beaucoup, dans de très nombreux cas, être un genre qui a une vision relativement réactionnaire, dans le sens où sa façon de d'établir un décalage avec la réalité historique. Les nazis ont gagné la guerre. Ce sont les, bon, c'est les sujets dont on parlait hier. Les noirs dominent les blancs et non l'inverse. Dans un autre récit de en bande dessinée, ce sont les Indiens qui envahissent l'Europe et pas le contraire. Il me semble qu'il y a une énorme, enfin, il y a une vision politique malgré les auteurs. Et en voulant dénoncer quelque chose, il me semble qu'ils se font le porte-parole de la chose qu'ils veulent dénoncer. Quand on dit les nazis ont gagné la guerre, c'est l'argument que je développais hier. Est-ce que les nazis n'ont pas vraiment gagné la guerre déjà? Il y a une question à se poser. Iggy Farben, tous les pontes des consortiums chimiques de l'Allemagne nazie étaient en place après guerre. Les réseaux Stay Behind étaient constitués entièrement de la moitié des services secrets des pays occidentaux étaient constitués d'anciens nazis ou d'anciens fascistes. Parce qu'il fallait s'assurer d'avoir des gens face au bloc de l'Est qui étaient incorruptibles moralement. On a le cas de Werner von Braun qui envoyait les V2 sur l'Angleterre et qui en réalité a fait tout le programme de spatial américain. Sans parler de tous les barbouzes en Amérique du Sud que les Américains ont mis en place. Sans parler de Klaus Barbie, si on peut venir à quelque chose de plus précis, qui torturait en Algérie pour le compte des Français après avoir torturé en Allemagne pour le compte des Allemands. Donc est-ce que déjà la plupart des uchronies se focalisent autour de sujets très très politiques. Je connaissais pas votre livre sur le cas de Jules Ferry qui me semble prendre le pied inverse en plus de ce genre d'approche de manière plus directe finalement, de manière et si effectivement la monarchie avait gagné avec sa vision élitiste, etc., en montrant les mauvaises conséquences. Il me semble qu'il n'y a pas de fascination dans la façon dont vous avez traité le sujet pour le mal qui est présenté comme le gagnant de l'histoire. Alors que dans la plupart des autres uchronies, il me semble qu'il y a une espèce de fascination. Même dans le Kadic, quoi, et si les nazis avaient gagné la guerre, c'est une uchronie classique qu'on retrouve 250 fois dans le genre science-fiction. Et il me semble qu'il y a une espèce de fascination malsaine pour cette approche-là.
Il faut que je réponde.
Non, pas forcément.
c'est possible. Moi, j'étais un lecteur du Maître du Haut-Château et j'avais trouvé ça intéressant. Voilà. Le renversement de perspective historique est toujours intéressant parce que c'est toujours un effet miroir par rapport à notre présent. Alors, est-ce qu'il y a une fascination pour ça? C'est possible. C'est souvent parce que les uchronies les plus nombreuses, effectivement, parlent de la traite de la Deuxième Guerre mondiale et de Napoléon, en général. Hein. Napoléon a gagné Waterloo, et voilà, qu'est-ce qui se passe après? Il me semble que l'histoire, moi, ça se joue à des petits détails, et que ce qui m'intéresse, c'est les détails qui font après évoluer l'histoire d'une certaine façon. Et ce que j'ai voulu avec l'école, c'était juste un point précis, juste l'école, le savoir, comment ça se passe. C'était un truc pas si vieux que ça, parce que c'est fin du 19e, donc à mon avis, c'est quelque chose de très fragile, finalement, encore. C'est comme une fleur fragile qu'il faut arroser en permanence. Et c'était juste, mon propos à moi, c'était de réfléchir sur ce qu'on croit être éternellement acquis, qui peut être remis en cause du jour au lendemain, et qui me semble important, parce qu'effectivement, il me semble important de partager le savoir. Il me semble important que les gens décident de leur système, de leur avenir. Et c'était là-dessus que je voulais attirer l'attention. Après, c'est chaque auteur avec ses propres préoccupations. Il se trouve que j'ai des enfants, que quand ils allaient au collège, ils étaient là en disant « chier au collège ». Vous avez des ados, hein, certains, donc vous savez ce que c'est. Quoi. Je veux dire, pour eux, c'est pas du tout évident que l'école soit quelque chose de très important, parce que c'est un fait. Quoi, voilà, on y va tous les jours, on est obligé, etc. Et c'était simplement pour prendre conscience des choses. Et je pense que ça, c'est le rôle des auteurs. Je parlais tout à l'heure de la réflexion. Je pense que c'est le rôle des auteurs d'imaginaire, c'est de faire prendre conscience, c'est de déplacer le point de vue. Et l'anticipation ou l'uchronie permet de déplacer le point de vue. C'est-à-dire, maintenant, on regarde, et c'est le « et si » permet le déplacement du point de vue. Et si c'était comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Et ça, c'est intéressant. C'est une pierre ajoutée à la réflexion globale.
Et c'est ça, mon... En même temps, hier, dans le débat d'hier, il y a eu l'idée à un moment qui a émergé que... Bon, il y avait des auteurs qui disaient que finalement, l'Uchronie se devait d'une certaine neutralité pour éviter de tomber. Alors, bon, c'est pas votre cas, là, dans l'Uchronie dont vous parlez, que je trouve très intéressant, d'ailleurs. C'était d'ailleurs pas le cas des deux auteurs qui étaient présents ce jour-là, hein, à ce débat hier. Mais, en même temps, il me semblait qu'il y avait une forme de vanité dans le processus uchroniste de la part des auteurs. Non, pas vanité au sens orgueil, hein, vanité au sens vain, le processus est vain. Parce que, il me semble que le processus lui-même est finalement un processus qui est condamné à être politique, puisqu'il à s'inscrire dans un processus politique historique dont il veut se détacher. Parce qu'il est obligé de se positionner par rapport à une vision politique de l'histoire, parce que toute vision de l'histoire est politique, et celle d'un temps et d'un peuple et d'une culture, et d'un consensus historique. Donc il y a cette nécessité de positionnement-là, et au sein de ce positionnement-là, il se fait au sein même de cette culture, donc avec des possibilités ou non pour chaque auteur de s'en extraire. Mais
c'est ça, dans la fascination dont vous parliez tout à l'heure ou...
Ben, il me semble que justement, dans cette fascination, elle en serait un des révélateurs de ce processus-là. Pour cette fascination, notamment pour les uchronies des victoires des nazis ou des victoires des systèmes totalitaires, ça me semble quelque chose qui est très très hérité d'une certaine façon de la fascination des systèmes totalitaires du XXe siècle pour des auteurs qui, comme moi ou comme d'autres, ont eu comme vision de leur temps une opposition assez manichéenne sous les yeux en politique tout le temps. Et là où il me semble y avoir une certaine vanité, c'est cette volonté de vouloir substituer une vision artistique à une vision politique me semble vaine, dans le sens où de toute manière ce sera une vision politique et qui ne sera pas forcément plus pertinente que les réflexions historiques déjà en cours et déjà en opposition dans le champ de l'histoire.
Mais cette fascination, est-ce que ça ne peut pas être aussi pris comme une mise en garde que ce genre de système recommence ?
Je ne sais pas, moi, je pose une question, hein. Je n'affirme pas qu'il y a une fascination malsaine de la part des auteurs. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un genre qui autorise trop souvent la maladresse, qui autorise trop souvent un positionnement manichéen bon, c'est assez difficile à exprimer, mais...
Mais ça peut être la même chose en anticipation dans tous les systèmes, quoi. C'est pas forcément lié à l'Uchronie, ça dépend comment on traite la matière. Dépend de l'hypothèse, ça dépend de la période qu'on prend, ça dépend de son état d'esprit par rapport à ça, ça dépend de ce qu'on veut montrer, ça dépend de tellement de choses.
Oui, mais il y a un enjeu mémoriel sur l'histoire, tandis qu'il n'y a pas un enjeu mémoriel sur l'anticipation.
Mais je pense qu'il faut s'extraire de l'enjeu mémoriel de l'histoire quand on fait une uchronie, puisque de toute façon, on est en train de monter une histoire qui est différente. Donc, à ce moment-là, il faut partir d'un point de divergence, et de ce point de divergence, d'avoir une solide connaissance historique du point de divergence, parce qu'on est obligé. Quand je me suis penché sur la Troisième République, je me suis aperçu que je ne connaissais rien à la Troisième République, c'était des trucs un peu nébuleux pour moi. Donc, on est obligé de se pencher sur ce point précis de l'histoire pour voir ce qui s'est passé, pour voir ce que les gens ont essayé de faire et tout ça. Et donc à partir de ce socle-là, il faut quand même relativement solide, avoir une certaine connaissance de l'histoire. Et à partir de ce socle-là, c'est créer une histoire parallèle. Donc c'est s'extraire du coup de cette espèce de mémoire-là pour dire qu'est-ce qui se serait passé si on avait pris ce point-là de divergence et qu'est-ce que ça aurait comme conséquence dans notre présent. Parce que c'est ça l'intérêt. Moi, je pense que l'intérêt de l'Uchronie principale, c'est-à-dire que si on fait une Uchronie qui se passe du 3e siècle au 10e siècle, ça me paraît assez peu intéressant, parce que là, c'est juste, on fait une sorte de péplum uchronique. En revanche, j'avais proposé une Uchronie à Flammarion, ils ont eu très peur. J'avais proposé, Charles Martel a été vaincu à Poitiers, l'Europe est devenue musulmane, bien, on n'a plus d'église mais des minarets. Il y a des terroristes chrétiens qui se font sauter de temps dans les églises. Et bien, ils ont eu peur, quoi. Oui, parce que ils se sont dit, voilà, c'est nous qui allons sauter, donc on évite ce genre d'uchronie. Mais ce que je voulais montrer, c'est que c'est un renversement de perspective. On peut toujours renverser les perspectives. On peut avoir de l'islam une vision super éclairée. On peut avoir une vision de l'islam soufi, par exemple, qui est un peu les Omeyyades du sud de l'Espagne, etc. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire, mais voilà, on peut changer le point de vue. On peut se mettre à la place de l'autre. Et si on se met à la place de l'autre, on peut comprendre l'histoire différemment. On peut du coup avoir une vraie réflexion sur l'humanité, parce que c'est souvent, tu parlais d'opposition, on est en manichéen, mais justement, l'uchronie permet d'être moins manichéen et de dire, on peut, si l'histoire est une pierre avec plein de facettes, on peut se mettre sur une autre facette et voir comment. Et ça, à mon avis, c'est le grand intérêt de l'uchronie, c'est d'offrir une réflexion en creux, en miroir, sur notre présent. Et de dire, voilà, on peut se mettre à la place de l'autre, du musulman, nous chrétiens, on peut se mettre à la place du musulman. Si les musulmans avaient conquis l'Europe de l'Ouest et qu'ils avaient créé une civilisation différente, eh bien, qu'est-ce qu'on serait? Quelle serait leur vision? Que deviendraient les chrétiens? Etc, etc. Et c'est ça, à mon point, le grand intérêt. De la même façon que l'anticipation permet aussi des voies futures et permettre d'attirer l'attention sur des dangers potentiels, sur des dérives potentielles. Là, par exemple, on est dans la biotechnologie. Il me paraît indispensable de réfléchir sur la biotechnologie parce que les intérêts économiques font qu'on prend plus le temps de la réflexion. Et c'est ça le rôle des auteurs, à mon avis, des auteurs d'anticipation, d'uchronie, d'imaginaire globalement, c'est de dire, voilà, on vous offre, à vous, une possibilité de réflexion parce qu'on n'a plus le temps de réfléchir. La technologie va trop vite. Et je pense que aussi l'intérêt pour l'histoire qui est développée maintenant, c'est qu'on a besoin de replonger dans nos racines pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On y va à toute vitesse, on ne sait pas où, mais on y va à toute vitesse. Et on a besoin justement maintenant de dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Est-ce qu'il ne faut pas maintenant réfléchir sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut, etc.
Du coup, je poserai une question à Jules Shepard. Comme tout à l'heure, vous disiez que... finalement, vous écrivez des histoires plus pour les histoires, pour les histoires que pour la réflexion, et qu'après il y avait deux types de genres qui pouvaient, enfin, de motivations dans le genre qui pouvaient s'opposer. Et du coup, comment pour vous ce que vient de dire Pierre est-il le rôle de la science-fiction, de cette mise en garde des dangers, ou est-ce que avant tout c'est pour vous toujours d'écrire des histoires? Est-ce que la SF a un rôle?
Ultimately, no. I mean, you know, I mean, nothing serves a purpose ultimately. I mean, it's like my stories are written as entertainments, and some people think they're more, but I always look at them as, I look at writing as being a carpenter. You know, I can bang some nails and put a nice door together, maybe with a nice little stained glass window, and, you know, there you go. But, like, you know, I don't really give myself any credit for, you know, illuminating anybody or anything like that. I mean, I just, you know, I do what I do because I can do it. You know, so it's... I'm relatively, I'm not humble, but, you know, I have an humble approach to writing, you know, like, you know, it's like that. So, I mean, when you ask me if science fiction has a purpose, I mean, if they're a cautionary tale, I mean, yeah, sure, it can do that. Anything, it can do a lot of things. I mean, you know, it can jump up on the table and take off its clothes, but, I mean, you know, it's not going to do it here. Like, you know, I mean, you know, it's... it's like anything else. It's open to you know, any approach, you know. So I don't see it's any more open though than say the work of Rob Guguet, you know, and people like that. Rob Guguet, is that, yeah? And like, I mean, which was to me really eye opening, you know, and just amazing. And like I think I agree with you that science fiction is generally conservative, you know. I mean, when I first started out, my first stories were rejected because they were too weird, you know, which, you know, I thought, wow, I'm in the wrong place here, you know. But anyway, yeah.
Je voudrais ajouter, enfin, dire quelque chose par rapport à ce que vient de dire Lucius. Il est évident que le premier principe du récit, c'est le fait de raconter une histoire. Raconter une histoire, c'est à mon avis le premier but de la science-fiction. C'est-à-dire, de faire en sorte que le lecteur puisse adhérer à l'histoire. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'effet de réel, de faire croire au lecteur à l'histoire. Ça, c'est le premier principe. Je veux dire, il ne s'agit pas d'illuminer les consciences, parce que, mon Dieu, nous ne sommes pas des prophètes, ni des. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, moi, c'est de. Je ne crois pas que j'écrirais des livres si je n'avais pas le secret espoir au fond de moi, ce qui est peut-être probablement très, très orgueilleux, de changer un tout petit peu le point de vue du lecteur sur quelque chose. C'est-à-dire, c'est de l'amener à dire, est-ce que je peux déplacer mon point de vue ? Là, ça m'intéresse. Il ne s'agit pas d'asséner des vérités, parce que qui possède des vérités ? Personne ne possède de vérités. C'est juste dire, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble ? Est-ce qu'on peut se déplacer un petit peu et de voir comment les choses peuvent être différentes ? Voilà, c'est juste mon but. Hein. Je ne crée pas de religion, rassurez-vous. Enfin, à moins que vous ayez des sous à me donner tous les mois. Mais sinon, je m'appelle pas Ron Hubbard, hein, je ne crée pas la scientologie. Mais si on peut réfléchir ensemble, je pense que c'est aussi l'intérêt. Mais évidemment, en gardant le principe de raconter une histoire. Voilà.
Eh bien, on arrive vers la fin de la conférence. Si quelques personnes ont des questions, on va pouvoir faire passer un micro. J'espère. Donc,
il y a un micro là-bas.
Parfait. Donc, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Personne. Bon.
On a vraiment tout dit, non, c'est ça?
Attendez.
Ah. Là-bas.
Oui, lorsque vous parliez des uchronies un petit peu à tendance malsaine, je ne suis pas tout à fait d'accord sur votre point de vue concernant le maître du haut château, qu'est-ce que vous pensez de Rêve de fer de Norman Spinrad Pardon ?
Qui est là devant.
Ah, bon. alors du coup, je ne sais pas si vous voudrez répondre. Est-ce que le livre de Spinrad est un livre malsain dans sa peinture d'un nazi fantasmé ?
Je ne parle pas de livre malsain, je parle d'une approche qui me semble vaine à un moment quand elle pense pouvoir s'extraire du processus politique et historique. Mon propos n'est pas de jeter l'anathème sur Norman Spinrad ou Philip K. Dick, qui sont deux auteurs que j'estime et que j'ai lus avec plaisir. Hein. Le problème n'est pas du tout là. Il me semble qu'il y a une... j'ai utilisé le terme malsain tout à l'heure ? Oui, d'accord, j'ai utilisé le terme malsain. Peut-être, on vérifiera avec la caméra, je ferai mon autocritique si j'ai utilisé le terme malsain. Le processus me semble vain dans le sens où vouloir s'extraire d'un processus historique et politique me semble en soi impossible pour un auteur qui est lui-même politique et issu d'un processus historique. Et il y a une forme de vanité chez certains auteurs, j'ai pas nommé, enfin, je me semble pas que Philip K. Dick soit arrogant ou autre avec son maître du haut château, mais c'est des concepts qui sont difficiles à exprimer parce qu'ils sont aussi de l'ordre du sentiment. Donc il me semble que dans le fait de... Il y a des œuvres fondatrices. Bon, le maître du château et l'œuvre de Norman Spinrad également font une entrée dans le genre avec des uchronies sur le nazisme. Et ensuite, derrière ça, on a une flopée, 3000 bouquins qui vont se retrouver sur le même thème et qui vont traiter ça avec fascination. Et c'est ça que je trouve malheureux, c'est le quand un genre se fige.
On pourrait poser les mêmes questions à propos d'Heinlein sur sur l'anticipation. Est-ce que c'est un facho? Est-ce que c'est un libertaire? Voilà, la question a été posée. Et ces bouquins sont assez contradictoires à ce niveau. Hein. On a entre Étoile garde à vous et En terre étrangère, on a vraiment deux extrêmes du spectre. Donc c'est intéressant, c'est pas ce qui se passe dans la tête des auteurs.
En plus, mon propos n'est pas de dire tel auteur est facho ou tel auteur est libertaire. Je suis pas là pour donner des notes aux gens, c'est pas le propos. Un auteur peut véhiculer malgré lui, comme n'importe quelle personne dans une société, des idées qui ne sont pas les siennes, finalement. C'est ça ma question sur l'Uchronie.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment sont reçus les livres. Parce que sur un livre, vous avez des réactions qui sont complètement extrêmes, extrêmement opposées. En disant, j'ai eu le cas pour L'Ange mineur, qui est une uchronie, pas une uchronie, qui est une fantaisie historique. Et donc on m'a dit, ouais, putain, ce mec, il est pro-royaliste, quoi, à fond, quoi. Et l'autre m'a dit, ben non, il est, et voilà. Et je me suis retrouvé dans la même position que les historiens eux-mêmes, qui sont soit pro-jacobins, soit pro-royalistes, avec aucune possibilité de démarcation entre les deux. Et donc, certains lecteurs me traitaient de jacobins et les autres de royalistes. Et on est dans ce genre de cas de figure, c'est-à-dire c'est à chacun de s'emparer finalement des récits et d'en faire son propre écho, enfin, je pense.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah bah. Non.
Donc là, j'ai une question. Vous avez abordé le problème de l'Uchronie uniquement sur un plan historique, factuel en fait, mais on pourrait très bien imaginer que l'être humain ait des facultés psychologiques en moins. Je ne sais pas, par exemple, la peur de la mort. Imaginons que l'homme n'ait pas peur de la mort. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ça, on peut considérer que c'est une uchronie? Parce que, historiquement, l'homme est né comme ça. Enfin, bon, voilà. C'est une de ses caractéristiques. Donc, ça peut très bien être aussi un problème métaphysique ou philosophique. Pas forcément factuel, non? Enfin, je pense
qu'il y aura probablement une notion culturelle là-dedans. Donc, ce sera aussi une civilisation. Il y aura aussi des faits qui auront amené cette civilisation à considérer ces choses-là. Et donc, il y aura eu un fait historique quelque part, à un moment, qui aura justifié qu'on n'ait plus peur de la mort. Et je pense que, par exemple, il y a eu ces civilisations-là, parce que quand on voit les Indiens d'Amérique, quand cette phrase « aujourd'hui est un beau jour pour mourir » est d'une civilisation qui n'a absolument pas peur de la mort. Quoi. Donc, ce sont des choses qui ont déjà arrivé. Il y a Alain Grousset et Daniel Martin-Igol qui est là aujourd'hui, qui ont fait un livre qui s'appelle « Sens interdit », où il y a une disparition d'un des cinq sens, qui est l'odorat. Mais ça s'est justifié aussi par un fait historique qui est soit une bactérie, soit un virus ou quelque chose comme ça. Donc il y a toujours quelque part un point de départ des cultures. Et il y a forcément, donc ça peut se traiter en uchronie aussi, tout à fait, sans problème. C'est bon?
Si...
Ah, on peut le creuser, enfin voilà, c'est une question qu'on peut creuser.
Bien sûr. Même si mais une civilisation différente donnera une perception différente des choses, et donc forcément on sera dans un processus uchronique, évidemment, enfin à mon avis.
Votre question elle se pose, j'ai l'impression qu'elle se pose aussi dans l'histoire, dans les enjeux historiques. Aux États-Unis, il y a Howard Zinn qui fait une histoire populaire des États-Unis où il raconte l'histoire du peuple américain sans passer par ses élites, et très souvent les uchronies me semblent se focaliser sur des éléments historiques qui sont l'histoire un what if sur l'histoire des élites politiques, militaires, etc., sur des grandes personnalités, etc., et assez peu ou moins sur des champs de l'homme qui sont plus tout autant politiques puisqu'ils font partie de la vie de la cité, mais qui sont moins emblématiques. Qui serait plus de l'ordre des sentiments humains, enfin de ce à quoi vous faisiez allusion.
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir libérer la scène pour la conférence prochaine. Bonne journée.